Un pas de côté, Jérôme Vuittenet, chapitre 30. Dès le lendemain, Anthony entama des recherches au sujet des propos de Marion. Il se souvint d'une phrase de Jean-Jacques qu'il n'avait pas comprise à l'époque, où il faisait allusion à son empreinte écologique. Il saisit ces termes dans un moteur de recherche et fut surpris par la quantité de liens que la requête retournait. L'empreinte écologique se définissait par la mesure de la pression exercée par l'homme sur son environnement. Elle se comptait en hectares de terres productives nécessaires au mode de vie d'un individu donné. Il fut d'abord étonné par cette manière d'aborder les choses. À aucun moment, il n'avait l'impression d'utiliser des surfaces productives, si ce n'est pour manger, mais pouvait-on se passer de manger ? Puis il entra dans le détail du calcul et vit que l'on associait à chaque produit de consommation courante une surface nécessaire à sa production ou au traitement des déchets qu'il générait. Des objets aussi peu naturels qu'une voiture ou un ordinateur possédaient leur propre empreinte écologique, directement liée aux ressources que nécessitaient leur production, leur transport, leur fonctionnement et leur élimination. De nombreux tests en ligne permettaient d'évaluer son empreinte écologique personnelle, en répondant à quelques questions sur son mode de vie. Il prit le temps d'en passer quelques-uns, et les résultats étaient concordants. Si tout le monde consommait et vivait comme lui, la surface nécessaire pour produire ce dont il a besoin et absorber ce qu'il génère comme pollution dépasserait l'équivalent de 5 fois la planète. Il avait bien sûr déjà entendu cette métaphore des 4 planètes nécessaires au mode de vie des Américains, mais sans véritablement avoir conscience de ce que cela signifiait concrètement. Et manifestement, il dépassait lui-même ce seuil déjà alarmant. Il poursuivit ses recherches et tomba sur un test en ligne plus détaillé, mais plus particulièrement dédié aux émissions de CO2. Le bilan carbone personnel était un outil mis en place par l'ADEME à destination d'abord des entreprises pour les aider à calculer l'ensemble des émissions directes ou indirectes de gaz à effet de serre dont elles étaient responsables. Le questionnaire avait été ensuite adapté aux particuliers et Anthony essaya d'y répondre en toute honnêteté. Il y passa beaucoup de temps car les questions étaient nombreuses et précises. Certaines d'entre elles nécessitaient un peu de recherche, et comme il n'avait pas accès aux factures de chauffage du logement qu'il occupait, il dut faire des estimations et des calculs empiriques pour s'approcher de la réalité. En se livrant à cet exercice, il prit conscience que tous ses gestes quotidiens avaient un impact direct sur les émissions globales de gaz à effet de serre. Du choix de son menu au restaurant, en passant par le temps qu'il restait sous la douche et la température de sa chambre, il vit aussi qu'une partie des polluants qu'il rejetait dans l'atmosphère dépassait très largement son champ d'action personnel. Les choix de société opérés par les gouvernements et les collectivités locales, dont il profitait ou non, faisaient partie de son empreinte écologique. Son téléphone vibra. C'était Audrey. Avant de décrocher, il imagina toutes les conséquences de l'utilisation de son téléphone. Sa fabrication, d'abord, qui a nécessité l'utilisation de terres rares à l'autre bout du monde, dans des conditions éthiques pour le moins discutables, de l'énergie pour produire le plastique et les circuits imprimés, et donc des émissions de CO2 associées à cette consommation d'énergie. Son utilisation ensuite, qui a entraîné le déploiement de nombreux relais sur l'ensemble du territoire, qui consomment tous de l'énergie en permanence, puis des recharges de sa batterie incessantes chaque jour. Il venait de lire sur un site que l'utilisation d'un téléphone portable pendant 1 an émettait autant de CO2 qu'un aller-retour Lyon-Paris en TGV. Enfin, son recyclage en fin de vie allait lui aussi poser problème, entre les métaux lourds utilisés pour la batterie et les différentes sortes de plastiques qui mettraient des siècles peut-être à se dégrader. Il finit par décrocher. « Allô ?
C'est Audrey, tu as lu Closer ?»
Sa voix était anormalement nerveuse et pleine de reproches. Si leur relation était devenue uniquement professionnelle, après leur histoire d'un soir, elle était néanmoins d'ordinaire courtoise et détendue. Anthony se redressa et rassembla ses esprits. Closer ? Je ne lis pas Closer, c'est un magazine People, c'est ça ?
C'est ça, et le People, c'est toi cette semaine.
De quoi ?
Tu fais l'objet d'un article dans le magazine. Or, rassure-toi, tu n'es pas en première page, mais il y a une demi-page avec une photo, et c'est surtout Smartphones, la marque, qui est visée.
Une photo ? Mais je n'ai pas reçu de photographe de Closer.
C'est une photo prise au téléobjectif depuis l'autre côté de la rue, peut-être. Évidemment, elle va bien avec l'article.
C'est-à-dire, que dit l'article ?
Il faut que tu le lises. On en reparle après. Ciao. »
Elle raccrocha aussitôt. Anthony referma son ordinateur portable et s'habilla rapidement pour courir au kiosque le plus proche. Il y acheta Closer, dont la une dévoilait des photos exclusives de Johnny Hallyday, mais ne mentionnait heureusement pas la chaîne de magasins ou le nom d'Anthony. Il feuilleta le magazine une première fois rapidement en revenant chez lui, tout en marchant, mais ne trouva pas l'article en question. Était-ce le bon numéro ? Il détailla chaque page une fois revenu dans son appartement, assis sur le canapé dans le salon. Il n'avait même pas pris le temps de se dévêtir. Page 42, dans la rubrique Potin mondain, il reconnut la façade de son magasin sur la photo floue. À travers la vitre, on le distinguait en face de son équipe de vendeurs, le bras levé, le visage sévère comme emporté par une colère noire et prêt à frapper quelqu'un. Il eut une bouffée de chaleur qui l'obligea à se dévêtir avant de poursuivre sa lecture. Il se reconnut à peine sur la photo, et il pensa qu'elle avait dû être retouchée. Elle avait été prise il y a quelques semaines, lors de sa réunion hebdomadaire avec les vendeurs. Le nouveau modèle de tablette qu'il tenait dans sa main levée avait été effacé par un infographiste. On voyait d'ailleurs que le contour de sa main était imparfait et flou. Les traits de son visage accusaient surtout la fatigue. C'était peu de temps avant sa crise d'angoisse aux États-Unis. Il n'avait pas souvenir d'avoir été fâché pour une quelconque raison ce jour-là, mais la photo le laissait clairement penser. L'article était titré « Bad Phones » et revenait d'abord sur la percée soudaine de la chaîne de magasins de luxe, le succès des modèles les plus coûteux, achetés par les stars et les grands dirigeants d'entreprise. Les lecteurs de ce genre de magazine affectionnaient particulièrement ces petits détails de la vie des grandes fortunes de ce monde, tout comme ils aimaient à se convaincre qu'il y avait finalement une justice et que les plus riches étaient aussi les plus malheureux ou qu'ils cachaient de sulfureux secrets qui entachaient leur existence. C'était l'histoire que voulait raconter la suite de l'article. Le journaliste avait brodé un scénario totalement fantasmatique autour de trois faits bien réels et vérifiables. Le décès accidentel du collègue de New York, le départ en claquant la porte de la camériste d'Anthony et la tentative de suicide de l'une des vendeuses de la boutique des Champs-Élysées. Le point commun entre les trois affaires serait l'incroyable ambition personnelle d'Anthony, dévastant tout sur son passage, dans le but, évident, de prendre seul le contrôle de la chaîne de magasins. Puisqu'il avait repris, avec Audrey, la suite de Clark à New York, la théorie était crédible. D'un certain point de vue, sa carrière avait profité de ce décès. Et puisque ni le journaliste ni ses lecteurs ne connaissaient Anthony personnellement, il pouvait tout à fait l'accuser d'une ambition débordante et d'un caractère impossible. Il rappela Audrey, inquiet de connaître son point de vue exact sur cet article. Le ton qu'elle avait employé ressemblait davantage à celui du reproche qu'à celui du soutien inconditionnel, mais elle s'était bien gardée de l'accuser directement. Elle savait que ce n'était pas l'ambition qui guidait les pas du jeune homme. Parfois même, elle lui reprochait à demi-mot son manque d'investissement personnel, d'enthousiasme. « Oui, c'est Anthony, ça y est, j'ai lu l'article. »«
Alors ?»«
Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est un tissu de conneries ?»«
Je me doute, mais qu'est-ce qu'on fait avec ça ?»«
Je l'ignore. »«
Est-ce que tu sais qui a pu balancer ça à la presse ?»
Comment ça, qui ?
Tu ne crois quand même pas que les journalistes de Closer sont arrivés là-dessus par hasard ?
Je ne sais pas, je n'avais pas pensé à ça.
La fille qui a eu cet accident, la vendeuse, elle est revenue ?
Revenue travailler ? Non, elle est toujours en arrêt maladie.
Ça pourrait être elle ?
Non, enfin, je ne sais pas, je n'en ai aucune idée.
Qui d'autre ? Tu n'as pas reçu de menaces, de lettres anonymes ?
Anthony songea à la lettre de Marion, mais chassa immédiatement cette idée. Même s'il avait en effet raconté en détail ce qui était arrivé, cela ne collait pas avec la photo volée quelques semaines avant son retour en Ardèche. « Non, j'ai deux autres vendeurs qui passent leur temps à s'écharper, et l'un d'eux me prend à partie régulièrement, mais je doute qu'il aille jusqu'à inventer ce genre d'histoire. »«
Méfie-toi de lui, quand même. De mon côté, j'ai refusé une interview à Closer il y a un mois. Ils ont peut-être voulu se venger de ça indirectement en s'en prenant à toi. »«
Ça me semble déjà plus probable, oui. »
Toujours est-il qu'on va réorganiser un peu notre fonctionnement, au moins pendant un temps. Tu vas laisser tomber New York, et je vais continuer de m'en charger avec Remo. Comme tu étais un peu fatigué ces temps-ci, ça tombe pas si mal.
Mais Remo ne parle pas anglais.
Il a des notions, il apprendra sur le tas. De toute façon, il faut couper court aux rumeurs qui pourraient entacher la réputation de Smartphones. Et puis, on trouvera quelqu'un pour remplacer Clark.
Et ma réputation à moi ?
Je te laisse juger si ça vaut la peine de porter plainte ou publier un démenti. Si c'est le cas, fais-le en ton nom propre et sans citer Smartphones, s'il te plaît. Mon père semble dire qu'il vaut mieux laisser couler. Le grand public ne te connaît pas et ce n'est pas ton image qui te fait vivre. Tu ne fais que vendre des téléphones. Seul contre un magazine comme ça, tu risques d'y laisser des plumes.
Ok, je vais réfléchir à tout ça et je te tiendrai au courant.
Je te laisse, je dois filer.
Anthony raccrocha et médita sur les dernières phrases d'Audrey. Tu ne fais que vendre des téléphones. Seul contre un magazine. Elles le blessèrent plus que l'article lui-même, car elles mettaient le doigt sur les doutes qui l'assaillaient maintenant de plus en plus régulièrement. Il se sentait seul, la plupart du temps, et sa vie professionnelle était vaine, inutile. Cette journée marqua le début d'une série de prises de conscience qui modifièrent radicalement la trajectoire de vie du jeune homme. Quelques heures plus tard, dans les couloirs bondés du métro, alors que tous les employés couraient pour attraper leur rame et que les étudiants marchaient tête baissée et casque sur les oreilles, il s'écarta imperceptiblement de la foule. Il remarqua le nombre inquiétant de mendiants qui côtoyaient toute cette richesse ambulante, les publicités vulgaires vantant les dérisoires qualités de produits artificiels qui défilaient sur des écrans géants consommant plein d'énergie. Au niveau du tapis roulant de la station Montparnasse Bienvenue, il fit un pas de côté et vit défiler devant lui ce que la société et ses choix personnels avaient fait de lui, un automate.